France Culture, ils ont changé le monde. Les découvertes scientifiques. Alexandra Delbeau.
Alors, vous habitez cette grotte. Comme c'est curieux.
Oh, puis c'est joliment décoré. Hein,
c'est toujours beau, les animaux.
Des bisons, des mammouths, des chevaux, des cerfs. Il y a aussi des hommes masqués. Il y a des signes de toutes sortes.
Et ça, c'est de l'art?
En effet, l'art pariétal.
En 1879, Marcelino Sanz de Sao Tola explore une grotte avec sa fille au nord de l'Espagne. Il est préhistorien amateur et ramasse des artefacts au sol quand la petite Maria remarque sur la paroi ce qu'elle croit être un taureau. Cette grotte, c'est celle d'Altamira, le premier site identifié d'art pariétal, mais personne n'y croit, en tout cas pas les plus éminents préhistoriens de l'époque. En cette fin du 19e siècle, l'art est réservé à l'élite, les peintures en couleur ne trouvent place que dans les salons des grands bourgeois. Impossible donc qu'un humain archaïque ait la sensibilité et la technique requise pour décorer les murs. Cette découverte suit finalement la naissance de la préhistoire, une discipline qui n'aura de cesse de questionner les preuves de pratiques symboliques de nos ancêtres. Comment la grotte d'Altamira a-t-elle été découverte? Pourquoi a-t-il fallu plus de 20 ans pour authentifier ses dessins? Comment la découverte de l'art pariétal a-t-elle changé le monde? Et pour explorer cette histoire, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Hurel, bonjour.
Bonjour Alexandra Delbeau.
Vous êtes historien au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris et à nos côtés également Yann Potin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservateur en chef aux Archives Nationales et maître de conférences associé à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Avant de plonger dans cette grotte, j'aimerais qu'on puisse dresser ensemble finalement le contexte et l'état des connaissances sur les débuts de l'humanité. Si on se place justement au 19e siècle, que pensait-on du passé de l'humain, Arnaud Hurel, à ce moment-là?
Que pensait-on? C'est difficile de répondre qu'il y avait une pensée unique en la matière. En
fait, j'imagine qu'il y a un lien avec les récits mythologiques peut-être de l'époque.
Alors oui, pour partie, mais en fait, c'est au cours de la première partie du 19e siècle que se cristallise, pour reprendre le terme d'Annette Laming-Empereur, en fait, deux courants de savoir cristallisent pour donner la réponse à la question de l'origine antéhistorique, préhistorique de l'homme. En fait, c'est d'un côté ce qu'on pourrait appeler les sciences humaines, avec l'histoire, entre autres, et donc une démarche plutôt fondée sur les écrits, et puis de l'autre côté, les sciences naturelles. Au cours du 18e siècle, on a augmenté l'histoire de la Terre, la profondeur temporelle a considérablement augmenté, et on a réussi, grâce à la paléontologie stratigraphique, à établir des chronologies.
Donc on commence à avoir des dates.
On commence à voir des dates dans le sens où on sait qu'il y a des choses plus anciennes que d'autres et d'autres plus récentes que d'autres.
Relative.
Donc voilà, et donc on a en fait deux courants qui se posent la même question, mais d'où vient l'homme? Quel est l'homme des origines? Et les réponses en fait, pour l'instant, étaient très différentes et surtout très très à distance l'une de l'autre. Donc l'une des autres, pardon. Et en fait, c'est autour de 1859 que à la fois ce courant que je de manière très schématique j'ai baptisé SHS et sciences humaines et sociales et de l'autre côté sciences naturelles vont in situ, c'est-à-dire sur le terrain lui-même, avec leurs propres méthodes, leurs propres arguments, leurs propres questionnements, vont ensemble établir l'ancienneté de l'homme. Donc c'est en fait la première question, c'est de répondre à « mais l'homme, oui, mais depuis combien de temps ?» Et finalement, en se rendant compte que l'homme a vécu en même temps que des espèces animales disparues, alors disparues ou éteintes, disparues de nos contrées pour des régions plus chaudes ou plus froides, ou totalement éteintes, cette contemporanéité nous donne l'idée d'un âge de plus en plus ancien pour cet homme.
Et vous placez 1859 parce que c'est la date de la théorie de l'évolution?
Ah, ça n'a strictement rien à voir. Non, on pourrait même rajouter, c'est l'année de la création de la Société d'Anthropologie de Paris, mais en fait, non. Alors, votre remarque est intéressante parce que un certain courant historiographique un peu rapide dans ses analyses, j'imagine, est arrivé à la conclusion que oui, effectivement, il y avait une concordance magique de choses. En fait, c'est intéressant parce que finalement, les préhistoriens, mais quasiment comme tous les naturalistes français, ne vont pas lire Darwin. D'ailleurs, ils vont pas lire Darwin, puisque la première traduction en langue française vient très tôt, vient en 1862, je crois. Mmh. Et en fait, c'est Clémence Royer qui traduit, ou plutôt trahit Darwin. On le voit dans la correspondance de Darwin. Donc la lecture qu'ils font de Darwin n'est pas celle du texte même de Darwin.
Oui, et c'est pas justement... ça ne ruisselle pas encore justement dans la société. Quelles sont finalement un petit peu les preuves matérielles dont on dispose à ce moment-là, Yann Potin? On imagine qu'il y a déjà des pierres, des os, des monuments. De quoi on dispose, qu'est-ce qu'on a en fait sous la main pour justement justifier de ce passé de l'humain?
Eh bien, c'est tout l'enjeu quand précisément cette date un peu fétiche de 1859 qui correspond effectivement à la reconnaissance de la découverte d'artefacts en silex, d'objets fabriqués sous-entendu de très anciens dans des terrasses de la Somme à Abbeville par Jacques Boucher de Crèvecœur de Perthes. On peut quand même le signaler par reconnu d'ailleurs entre parenthèses ce qui tout immédiatement une science transnationale puisque reconnu par une commission britannique. On va retrouver peut-être ça, cette question du transnational dans la découverte de la reconnaissance de la préhistoire. Alors, bah, ces objets, c'est essentiellement au départ, en effet, des bifaces, des haches, et que précisément la difficulté, c'est de qu'il n'y ait pas de on ne voit pas tout de suite de fossiles humains. Mmh. Et ça va être d'ailleurs un des gros problèmes assez rapide, mais qui va se résoudre en 1863 avec la mâchoire de Moulin-Quignon, puisqu'on va trouver associé, avec quelques controverses, mais on n'a pas le temps de développer. En revanche, ce qui va marquer peut-être la date, à mon avis, la plus claire et qui ouvre tout un débat de reconnaissance chez les plus sceptiques, c'est en 1864, quand on trouve à la Madeleine, Édouard Larté, un fragment d'animal fossile, mais sur lequel l'homme a représenté un mammouth. Et là, en fait, se crée une espèce de trou, puisque quelque part, on reconnaît déjà que l'homme peut être graveur, sinon artiste, mais parce qu'on a besoin, au fond, et notamment les naturalistes, de montrer que cette contemporanéité stratigraphique dont parlait Arnaud Hurel n'est pas simplement un hasard, mais qu'elle est véritablement, que des hommes ont véritablement vu des mammouths. Et l'ancienneté, la patine de l'objet fait que, voilà. Donc, on en est là, on peut dire que le processus de reconnaissance même de la préhistoire à la fin des années 1860 n'est pas tout à fait achevé. Ce n'est pas, d'ailleurs, le mot préhistoire dans son utilisation va même émerger intransitive, hein, la préhistoire, et non pas le préhistorique ou non pas comme adjectif, va même plutôt émerger dans les années 1870. Mmh. Hein, donc, ce n'est pas quelque chose voilà qui surgit tout habillé des terrasses de la Somme.
Il y a quelque chose d'assez intéressant aussi dans l'art mobilier parce qu'en fait finalement il y a cette reconnaissance. J'avais noté aussi l'existence des biches du chafaud qui est un peu antérieure donc en 1840. Donc là il y a aussi une lente reconnaissance. Ça met quand même 20 ans pour qu'on puisse voir vu justement qu'il y a cette gravure. Mais on voit que c'est peut-être considéré comme un art mineur, en fait, indirectement, Arnaud Hurel. Si on en aura besoin pour notre histoire, finalement, on reconnaît assez rapidement qu'il y a une forme d'art, de gravure. Est-ce que c'est de l'art ou ce qui est important, c'est la représentation, par exemple, de ce mammouth et de se dire que, voilà, il y a cette contemporanéité entre les deux.
Alors, je crois qu'il y a un écueil, on va dire, un écueil épistémologique. C'est-à-dire que il faut remettre les choses dans leur contexte et donc on pour le chafaud, par exemple, ou pour d'autres pièces qui ont été découvertes antérieurement, on ne peut pas considérer que ceux qui ont manié ces objets n'ont pas vu ce qu'il fallait voir, dans la mesure où, finalement, ils ne se posaient pas des questions que nous, on se posera plus tard. Donc, ça, c'est une grande difficulté. C'est aussi le problème d'une bonne partie de la littérature préhistorienne, c'est que, justement, on a, par un effet de rétrospection, on a tendance à ressortir des collections, des tas d'objets ou des sites, et en disant, mais mon Dieu, tout était là, ils n'ont rien vu. Donc, ça, c'est un premier écueil. Alors, en revanche, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a un site qui est le site d'Aurignac, qui est travaillé par Édouard Larté, qui est un paléontologue, enfin, c'est un juriste passé à la paléontologie, mais qui est un paléontologue qui travaille sur le site d'Aurignac. Et Aurignac, en fait, on a tout, en réalité. Tout ce qui fait, à l'heure actuelle, au XXIe siècle, la préhistoire. C'est-à-dire qu'on a des restes humains, enfin, on sait qu'il y a eu des restes humains, il va trouver des morceaux de restes humains, on va dire. Et il va trouver de l'art mobilier, il va trouver des industries, donc des pierres taillées. Il va trouver tout ça, tout ce qui peut faire la préhistoire dans sa complexité. C'est-à-dire, en fait, sans doute un lieu que lui appelle un lieu sépulcral, donc avec un rite funéraire qu'il invente. Alors, Émile Cartaillac parlera de la poésie d'Aurignac, hein, parce que l'Arte va partir très loin. Mais, en fait, il y a la matérialité pour avoir tous les grands sujets de la préhistoire du XIXe siècle. Sauf que, si on n'a pas les questions, on peut juste exposer des faits. Et donc, l'Arte va exposer l'intégralité des faits. Et pour des tas de raisons, finalement, Aurignac va se retrouver oublié. Et toutes les questions qui sont à Aurignac, ou plutôt qu'on aurait pu imaginer à Aurignac, vont apparaître petit à petit. Et l'histoire de la préhistoire, c'est l'histoire d'un engendrement de questions, en fait. On pose une question, on apporte une réponse, ce qui crée une nouvelle question. Et pour répondre à cette nouvelle question, il va falloir développer des méthodes, et ainsi de suite. Et finalement, toute l'histoire de la préhistoire ne fonctionne que comme cela.
Donc c'est la première. Science, finalement.
Oui, bien sûr. Mais en réalité, il a fallu l'écrire pour essayer de le faire comprendre. Et donc, cette première question qui est l'ancienneté de l'homme, l'homme d'origine, amène ensuite d'autres questions. D'où la perception qu'on peut avoir de l'art mobilier, ce qu'on appelle maintenant l'art mobilier. Tous ces petits objets qui sont sculptés, gravés ou autres, sont perçus dans un cadre qui est très particulier également, qui est que finalement, ces objets... Certes, à la Madeleine, on trouve un animal un peu étrange, avec des détails anatomiques qui font qu'on pense que la personne a dû obligatoirement voir un mammouth pour savoir, pour être capable de le dessiner, on est d'accord. Mais pour le reste, ça semble être une espèce d'art de délassement, donc une espèce plutôt d'artisanat, sans vouloir être péjoratif à l'égard des artisans, bien sûr, mais un artisanat, donc une reproduction de quelque chose du quotidien. Mais on est aussi dans l'état d'esprit, en fait, vous voyez, c'est un peu le conscrit qui est en train de préparer la quille pour la fin de la conscription, et donc tous les jours il est en train de faire une petite gravure sur son objet. Là, on est dans un registre tel que c'est présenté. C'est pas, comme disait Mortillier, c'est pas l'art de l'enfant, mais c'est l'enfance de l'art. Donc c'est une pratique du quotidien.
Et il y a aussi toute une notion, là on a parlé un peu du matériel, mais il y a tout l'immatériel. Donc finalement, il y a aussi ce qu'on appelle l'ethnographie. Est-ce que ça a déjà une place en fait au 19e siècle, Yann Potin?
Ah, tout à fait. Et c'est-à-dire que c'est... toutes ces disciplines qui n'existent pas vraiment encore, puisque l'anthropologie physique ou l'ethnographie se déploie dans un contexte colonial à peu près en même temps, enfin précolonial même, en fait, la comparaison est héritée même, on peut dire, presque de l'époque moderne, puisque c'est un jésuite, Lafito, dès 1724, qui a suggéré qu'il fallait comparer, alors là c'est pré-évolutionniste, les populations primitives, dites primitives, que les Européens découvraient, en les éliminant parfois, et les hommes des premiers temps. Donc c'est au contraire, c'est fondateur cette comparaison, mais en effet, et d'ailleurs au départ la préhistoire c'est aussi appelé paléthnologie, c'est-à-dire ethnologie ancienne. Donc ça il y a aucun doute là-dessus, et de ce point de vue-là, évidemment le primitivisme des conceptions est projeté sur les femmes et hommes préhistoriques. Donc par exemple, comme le disait Arnaud Hurel, quand on commence à admettre la possibilité d'un talent artisanal, graveur, sculpteur, on l'imagine forcément comme une imitation de la nature. C'est-à-dire cette idée, soit alors un délassement, Arnaud en a parlé, mais aussi tout simplement une sorte de aucune imagination. C'est-à-dire simplement reproduire ce qu'on voit. Ce qui d'ailleurs va entraîner certains penser que ces reproductions d'art mobilier sont des reproductions fidèles sur lesquelles on peut même faire des mesures anatomiques. Donc c'est pour le coup un écueil absolu, anti-artistique d'une certaine façon, mais là aussi le contexte parle. On est dans les années 1860, c'est quoi? Quel est le mouvement dominant dans l'art? Le réalisme.
Donc il y a toujours un lien avec ce qui se passe dans la société.
Donc forcément, voilà, il y a un lien direct entre Corot, Millet et le naturalisme prétendu de l'art mobilier.
Un petit mot aussi sur la préhistoire en tant que discipline et la façon dont elle se structure. Arnaud Hurel, qui sont les préhistoriens et archéologues du 19e siècle? Est-ce qu'il y a une professionnalisation? Est-ce qu'il y a des amateurs, entre guillemets, et des professionnels? Est-ce que tout le monde est un peu amateur dans cette histoire-là?
C'est vous, c'est moi. C'est-à-dire, en fait, comme il n'y a pas d'enseignement au sens académique du terme, donc il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de carrière, il n'y a rien de tout ça, il n'y a pas de mode au tout début en tout cas, il n'y a pas de mode de validation des découvertes ou des concepts. Donc tout le monde peut devenir du jour au lendemain un préhistorien, mais en même temps, il suffit de se promener dans les campagnes, après les labours, on va voir que tous les champs sont remplis d'artefacts d'époques variées, et donc des pierres, essentiellement des pierres polies, on en a un petit peu dans toutes les fermes de France, donc... tout le monde est potentiellement un préhistorien. Finalement, en fait, il y a des éléments quand même qu'il faut prendre en considération, qui sont des éléments déclencheurs. C'est-à-dire que, certes, il n'y a pas besoin de connaître son latin ou son grec pour devenir préhistorien, mais il faut avoir un goût pour la collection, donc une méthode de collectionneur ou un goût pour les sciences naturelles. Et puis il faut avoir du temps et puis il faut avoir surtout la possibilité de se déplacer.
Donc
voilà. Alors quand on se contente de glaner dans les champs, il faut avoir du temps et faut être le curé qui fait le tour de sa paroisse, faut être l'instituteur qui va chercher les enfants qui sont pas venus à l'école. Donc là on peut être on peut agir. Après il y a la question effectivement de l'argent. Et ce qui s'est passé en fait, c'est une initiative on va dire impériale de 1858, la commission de topographie des Gaules, qui, en voulant travailler sur les guerres des Gaules, sur les armées de César, et finalement lance un grand mouvement autour de ces questions-là, et se rend compte petit à petit qu'il y a un peu partout sur le territoire national des on va appeler ça des érudits qui ont aussi des collections de choses un peu étranges ou ont publié un certain nombre d'éléments. Et donc on va étendre cette commission de topographie des Gaules à tout l'ancien territoire des Gaules, donc une profondeur temporelle énorme. Et donc on va mettre en place des questionnaires, et ces questionnaires vont permettre de repérer des grottes, repérer des collections, de recenser tout cela. Et donc petit à petit, c'est une communauté qui se fédère, qui se rencontre grâce entre autres à cette commission de topographie des Gaules, grâce aux sociétés savantes, grâce à tous ces points d'ancrage. Et finalement, on se forme où ? On se forme au contact de ces congénères, au contact de ce qui va devenir plus tard la communauté préhistorienne. On se forme en présentant ces objets, en présentant ces sites, et puis on se tourne vers ce qui vont devenir les manuels fondamentaux dans la discipline. Ça va être un livre de Gabriel de Mortillet qui s'appelle Le Musée Préhistorique, qui en fait ce sont des planches qui présentent des objets. Il donne des noms, il présente des objets, donc finalement on va tous avoir le même vocabulaire, on va tous donner le même nom au même type d'objet, on va tous avoir le même type de collection, et c'est comme ça que ça se développe.
Oui, ajoutons que cette initiative va être aussi tout à fait anti-institutionnelle, puisqu'il faut attendre le XXe siècle très avancé pour qu'il y ait un enseignement de préhistoire dans les universités. C'est une autre histoire.
1948.
Mais... Oui.
Donc, c'est hier.
Oui, mais c'est le XXe siècle, la deuxième moitié du XXe siècle. Mais le musée, cette initiative impériale, Arnaud Hurel parlait de musée préhistorique, c'est un musée en livres, mais Gabriel de Mortillet, qui est donc lui pour le coup un personnage sur lequel qui est important parce qu'il a un ancrage idéologique assez fort, très matérialiste, anticlérical, il est recruté justement alors qu'il a une expérience assez faible, il a été quand même responsable de collection à Annecy dans l'exil, c'était un ancien 48A, en 1868-69, pour accompagner l'extension du musée qui devait s'appeler de gallo-romain de Saint-Germain-en-Laye, aujourd'hui le musée d'archéologie nationale, qui va intégrer après l'exposition universelle de 1867, où la préhistoire d'une certaine façon est née aux yeux du public, hein, puisque...
Il va donner des vocations.
Voilà, et surtout là, pareil, contexte, c'est parce que l'industrie est au cœur de l'imaginaire et des valeurs précapitaliste, qu'on s'intéresse à des outils de pierre qui sont vus comme, en gros, la préhistoire de l'industrie.
Et on fait du préhistorique un prolétaire.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il ne nous laisse comme trace que son industrie.
Voilà.
Ses outils de travail.
Voilà, ses outils de travail.
Donc, il y a une vision... Yann Potin évoquait tout à l'heure Jacques Boucher de Perthes, qui est quelqu'un qui compte beaucoup dans ce... J'allais dire, comme on dirait l'autre, presque un insu de son plein gré. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas vraiment préhistorien, mais il a toute une imagination, il a un imaginaire qui lui est propre, et la préhistoire sert cet imaginaire. Mais il a aussi des œuvres sociales, et il a des écrits qui sont des écrits engagés d'un point de vue politique et social. Et finalement, c'est prolétaire de toutes les périodes qu'il réunit, c'est tout cet ensemble qui l'unit à travers ses écrits et sa vision de la préhistoire.
France Culture, ils ont changé le monde. Les découvertes scientifiques. Alexandra Delbo.
Ce n'est qu'en 1879 que l'on découvrit la première caverne peinte. Un distingué espagnol, dont Marcelino de Sautola, avait dans la région de Santander une maison de campagne à Puente San Miguel. On venait de découvrir dans le voisinage, à peu près à une heure de promenade, une grotte. Un chien de chasseur ayant pénétré dedans, le chasseur suivi, et la cavité fut découverte. Et il était accompagné de sa petite fille, qui avait, je crois, 5 ans, laquelle ne s'intéressa probablement pas beaucoup à ces reliefs des anciens temps, et s'assit, pendant que son père fouillait, sur une pierre. Et ses yeux erraient à l'aventure et particulièrement se fixèrent sur le plafond bas qui la dominait. Et tout d'un coup, elle s'écria « Un toro !» Et le père de lever les yeux et de s'apercevoir que tout le grand plafond bas, qui a 50 mètres de long environ sur 15 de large, était entièrement couvert de grandes fresques, parfaitement bien conservées, et figurant des bisons, des chevaux et une biche.
L'abbé Breuil en conférence à l'UNESCO, une archive de l'INA de 1946. On entend finalement le récit finalement de cette découverte. Marcelino Sautola et sa fille visitent cette grotte qui est finalement déjà connue. Arnaud Hurel, on l'a déjà. Je crois que c'est un chasseur justement qui avait découvert cette grotte. En tout cas, elle est déjà connue et lui, il a peut-être déjà visité plusieurs fois.
Lui-même la connaît puisqu'il y est déjà allé en 1875 et il a déjà repéré un certain nombre de dessins sur les parois. Donc tout le monde sait qu'il y est passé. Tout le monde sait qu'il y a sans doute un dépôt archéologique, donc quelque chose d'ancien dans le sol. Donc c'est ce qui ne va pas aider en fait à la reconnaissance c'est un des caractères de la difficulté de reconnaître ce site, un des éléments.
Parce qu'il l'avait vu avant.
Parce qu'il l'avait vu avant et que il s'est passé 4 années entre sa première visite et la deuxième, et que d'un seul coup, même lieu, même visiteur, et là, d'un seul coup, il verrait un peu partout des reproductions absolument formidables. Ça devient un peu suspect.
Mais vous disiez justement qu'il y avait un petit mot là-dessus, qu'il avait déjà vu des dessins.
Oui,
déjà, donc en fait,
oui,
est-ce qu'il y a une forme de romantisation de l'histoire avec sa fille ou pas du tout? Moi, je veux voir le mal partout, peut-être.
Oui, mais la préhistoire, c'est de l'histoire, donc c'est un récit, et c'est un récit de récit emboîté. Et donc, selon Breuil, l'archive que vous venez de passer, Breuil joue beaucoup sur ce côté... sur ce côté un petit peu sympathique de la famille, de la découverte de l'enfant. Donc l'enfant, c'est la vérité. Hein. Donc si l'enfant a vu, donc il n'y a pas aucune ambiguïté. Mm-hmm. Hein. Donc c'est une vraie découverte. Donc il y a un côté un peu virginal dans tout cela. Et donc il s'inspire, il travaille beaucoup sur ce genre de choses, Breuil. Hein. Il aime beaucoup ça. Après, la façon dont il va travailler, lui, le site d'Altamira est moins romantique et moins romanesque, mais non, c'est une utilisation, une instrumentalisation. Oui.
Vous voulez réagir?
Oui, on parlait de scellement, ce qui crée la suspicion. D'ailleurs, le Édouard Harlay, le paléontologue français qui va visiter la grotte en 1879 pour inspecter et finalement invalider à ses yeux, donc c'est vraiment selon des critères naturalistes, le fait que la grotte soit ouverte je veux dire, de longue date, participe évidemment à la suspicion, puisqu'évidemment, ça peut être des peintures de n'importe quel âge, puisqu'il n'y a aucun élément comparé pour les dater. Donc ça, c'est un premier point. Sur le récit de la découverte, c'est fondamental, parce qu'effectivement, c'est un récit a posteriori, même si la fille a survécu à son père, et elle a dû participer aussi un peu de cette légende. Il se trouve qu'à Altamira, faut le préciser, hein, c'est dans le massif des Cantabres, donc c'est près de Santillana del Mar, près de Santander, le plafond des taureaux est bas. Donc il y a d'abord, dans le récit, il y a une pragmatique de dire cet art, cette enfance de l'art, qui n'est pas encore totalement aperçu comme ça, on en a parlé tout à l'heure, est d'abord un arbre qui peut être vu par les enfants. Il y a aussi un autre aspect qui a été magnifiquement décliné par un anthropologue, Daniel Fabre, disparu aujourd'hui, dans un livre « Bataille à Lascaux » sur le parallélisme entre les découvertes d'art, pariétal notamment, et à commencer par Altamira, et les enfants. Et ce parallélisme avec les apparitions mariales au XIXe siècle. C'est-à-dire cette idée que, comme évidemment La Salette ou Bernadette à Lourdes, que l'intercession passe beaucoup par les enfants dans les récits du XIXe siècle. Donc évidemment, c'est un récit quand même qui a été reconstruit, et sans doute peut-être que Sautola lui-même, parce qu'il est mort quand même assez vite, a mis en avant cela comme un gage d'innocence, en disant si c'est... Et un gars pour essayer d'être plus convaincant par le truchement de cette apparition enfantine. Et après tout, c'est ce que fait l'Église en 1858 avec la pauvre Bernadette.
Il publie justement ses résultats l'année suivante, en 1880, sous le nom de « Brèves notes sur quelques objets préhistoriques de la province de Santander ». Que trouve-t-on finalement dans ces brèves notes? Je crois qu'il y a quand même 44 pages à cette brochure, Arnaud Hurel. Qu'est-ce qu'il dit? Quelles sont ses hypothèses? Est-ce qu'on y trouve des dessins?
Eh ben, ce qu'il veut, c'est démontrer l'authenticité de la découverte et l'importance de la découverte.
Il est épaulé par un archéologue aussi, il me semble.
Il est épaulé par un archéologue, il y a un paléontologue, Villanova, qui va être son porte-parole et qui est quelqu'un de très connu, mais aussi de controversé en France pour des raisons de doctrine. Mais en fait, il a besoin de. Vous savez, c'est comme si, de manière générale, la préhistoire à ce moment-là est encore une science jeune, et donc elle n'est pas à l'abri d'une supercherie ou éventuellement d'erreurs, et il y a eu pas mal de cas d'erreurs, donc pas obligatoirement de supercherie, mais d'erreurs véritablement, d'interprétation ou de compréhension d'un site ou d'objets.
Ça veut dire qu'on avait mal daté ou il y a eu des faux aussi?
Alors, oui, la question du faux, c'est ambigu, parce que quand l'objet est neuf, qu'on ne l'a jamais vu, on ne sait pas est-il vrai ou est-il faux. En fait, ce sont les conditions de la découverte qui sont des éléments majeurs pour l'administration de la preuve. Généralement, ça se fait avec des témoins. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on évoquait 1859, Yann Potin revenait sur les Anglais présents à Abbeville. On dresse un procès verbal, on est tous présents, on a tous vu la même chose au même moment. Là, il est tout seul, d'où le fait qu'il insiste énormément sur la présence de sa fille, donc son témoin ne peut pas avoir tort, parce que évidemment, la petite voilà, est à l'abri de tout soupçon. Donc, la démonstration, c'est finalement de dire, bon, certes, on connaît déjà un peu le site, c'est à l'évidence un site paléolithique, parce qu'il y a dans le sol des objets qui, eux, sont très anciens, mais il y a aussi, en concordance avec ces objets, ces représentations qui sont sur les murs. Donc, il veut démontrer la réalité de tout cela. Mais il est tout seul. Il est tout seul. Et il est tout seul, même s'il est soutenu par d'autres, il est celui qui a vu, et comme le soulignait Yann Potin tout à l'heure, la grotte, n'importe qui pouvait y aller. Et donc, c'est un argument facile que de dire que n'importe qui a pu y faire des représentations de tous ordres.
Est-ce qu'il y a des dessins, justement, dans cette brève note? J'ai cru comprendre que justement il y avait notamment un petit cervidé qui était plutôt simple, qu'il n'avait pas voulu recalquer le bison polychrome justement avec plein de couleurs.
Alors c'est en fait dans le rapport que Édouard Harlay va publier dans la revue d'Émile Cartaillac, va publier. Donc il est envoyé sur place par deux préhistoriens, Émile Cartaillac et Gabriel de Mortillet. On envoie Édouard Harlay, qui est un ingénieur des chemins de fer, donc qui a une connaissance technique presque scientifique, et donc va pouvoir avoir un œil objectif, on va dire, et qui est un vrai paléontologue. Donc il profite d'une mission dans le cadre de son travail pour aller 1879 et c'est en 1881 qu'est publié le rapport. Et il est clairement mandaté par Mortillet et Cartaillac, et il va revenir avec des dessins, des mesures, avec énormément une documentation importante. Et il va montrer tout ça à Cartaillac et à Mortillet. Et les deux vont être convaincus, en l'écoutant et en regardant tout cela, que ça n'est pas possible. Parce que finalement, effectivement, ce que le seul petit dessin que va représenter Édouard Harlay, c'est un petit crobar d'un cervidé, donc c'est 4-5 traits, c'est assez schématique. Pour lui, c'est ce qui semblerait éventuellement le plus ancien, parce que c'est le plus simple dans sa réalisation. Le reste est quand même techniquement et bigrement bien réalisé. Et donc il y a des couleurs, il y a des formes polychromes, il y a le volume même, la taille des animaux qui sont représentés, les groupes qui sont représentés.
Donc, il y a plusieurs périodes d'occupation aussi, donc je pense que ça n'a peut-être pas joué également avec des dessins peut-être différents.
À l'époque, c'est même pas ça le sujet. Le sujet, c'est justement que c'est trop bien composé. C'est pas simplement que les bisons sont particulièrement nombreux et polychromes, jouant sur des effets d'ombre et de lumière déjà de la paroi, enfin du plafond plutôt, mais c'est tout simplement que l'ampleur des panneaux, le fait que c'est une composition comme une fresque, comme la voûte comme une voûte peinte, donc ça pose un problème c'est tout de suite trop fort.
Donc c'est trop beau en fait. Pourquoi finalement c'est si inconcevable à l'époque? J'expliquais dans l'introduction qu'il y avait cet enjeu central en fait de l'arche et les bourgeois. Il y a aussi ce fait-là, c'est-à-dire que c'est tellement beau.
En fait, on avait déjà le problème avec l'art mobilier. C'est-à-dire que lorsqu'on trouvait une pièce d'art mobilier où il y avait plusieurs représentations dessus, on disait que les préhistoriques faisaient des portraits, mais n'étaient pas capables de faire des tableaux. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas capables de créer des scènes avec des représentations qui interagiraient entre elles, mais c'était une juxtaposition de représentations. Donc un animal, un poisson, enfin un mammifère, un poisson, tout ça. Et là, Altamira, en fait, on comprend qu'il y a quand même des scènes qui sont représentées. Il y a des individus, il y a des scènes, et puis il y a des dessins qui sont des dessins géométriques et qui sont pas des graffitis faits par hasard, qui ont leur place dans l'ensemble. Donc effectivement, on se pose pas la question à ce moment-là de la chronologie, de savoir si tout a été fait au même moment, mais on constate qu'il y a cette grande diversité. Alors effectivement, tout à l'heure, Yann Potin intervenait sur... Il a juste raison sur la présence de l'art et le réalisme et tout ça, mais là on va finalement au moment de la découverte de l'Altamira, on bascule dans un autre univers qui est celui finalement de l'entrée dans l'intérieur bourgeois de l'art à travers la peinture, mais aussi la bibliothisation, c'est-à-dire ces petits objets qu'on peut avoir chez soi. Et quand même, ces préhistoriques nous renvoient à notre quotidien, c'est-à-dire que on a encore le sentiment de, en pénétrant dans une grotte, de rentrer dans l'intérieur des préhistoriques, on rentre chez eux et on voit sur les murs, le même type de représentation, la même beauté, le caractère polychrome, la qualité de la réalisation. On voit des choses assez extraordinaires et le sol est jonché de petits objets, de morceaux d'ivoire ou de bois, qui est des bois d'animaux qui ont été taillés, qui ont été gravés, ainsi de suite. Donc finalement, on retrouve les bibelots dont on est en train d'encombrer notre intérieur. Donc il y a aussi cette difficulté. Ça ressemble quand même vraiment. Il y a une proximité qui se crée. Qui est un obstacle en soi, en elle-même.
Comment cette grotte ornée va-t-elle finalement être reconnue? Quel est le rôle de l'abbé Breuil dans la reconnaissance de cet art pariétal? C'est la suite de notre programme, juste après ça.
En ce temps-là, nous allions à la pêche au blou-blouillon, à la chasse au gros-gros-gros, car nous n'avions pas les mots. Nous savions de nos mains pallier ce manque incertain, sans pinceau et sans lanterne, en peignant dans nos cavernes. Nous peignions d'après nature, la main droite et l'œil sûr, notre mémoire nous guidait, on n'avait pas de chevalet. On a trouvé des pigments qui durent bien 40 000 ans, inventé l'aérographe, le pochoir, un sacré taf. Nous les Cro-Magnons, les Néandertals et consorts, nous ne prétendions pas survivre à notre mort. Les psychotropes ont permis, grâce à des plantes bien choisies, de réaliser les fresques sur tous nos supports rupestres. Mystique, d'intello, de symbolique, quand on vit à Bornéo, des hommes à corps d'animaux. Mais l'environnement sonore influait sur le décor, car c'est dans certaines pièces qu'on célébrait de grandes messes. 45 000 ans plus tard, on voit, tiens, comme c'est bizarre, les couleurs psychédéliques des vitraux d'une basilique. Nous ne prétendions pas survivre à notre mort. Nous les aïeux grognants, nous les simples d'esprit, vous les artistes pédants, on vous a tout appris. On vous a tout appris. On vous a tout donné.
Oh. rupestre de Lénine Renault sur France Culture. Vous écoutez les découvertes scientifiques qui ont changé le monde avec aujourd'hui la découverte de l'art pariétal en compagnie d'Arnaud Hurel, historien au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, et Yann Potin, chargé d'études documentaires aux Archives Nationales et maître de conférences à l'Université Paris-Nord. J'aimerais qu'on puisse revenir tout de même sur un point qui me semble peut-être important sur, effectivement, il y a ce congrès en fait international d'archéologie et d'anthropologie préhistorique à Lisbonne où finalement il va présenter ses résultats. Est-ce que là il est un peu raillé? Est-ce que finalement tout le monde, c'est-à-dire l'intégralité de la communauté scientifique préhistorique à l'époque, considère que ce n'est pas possible? Ou est-ce qu'il y a deux camps peut-être qui s'opposent, Arnaud Hurel?
Alors, la préhistoire, on peut donner l'impression de parler d'une préhistoire uniquement sous le point de vue français, et parler toujours de la France. En fait, c'est quand même la préhistoire se construit en France. Le vocabulaire est essentiellement un vocabulaire qui se construit en France, et d'abord en France, parce qu'il y a un grand nombre de préhistoriens, certes, mais aussi il y a un grand nombre de découvertes et un grand nombre de collections. Donc c'est pas une revendication patriotique que de dire que les Français ont un rôle majeur dans tout cela. Et c'est eux qui tiennent le congrès. C'est eux qui tiennent le congrès. Comme ils sont hostiles à la reconnaissance de l'art pariétal, il est évident que, tenant le congrès, et Sautuela et Villanova ne pourront pas s'exprimer. Et c'est à deux reprises, en fait. Hein. C'est en 1880 au congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistorique, mais également en 1881 à Alger, au congrès de l'Association française pour l'avancement des sciences. Et dans les deux cas, en fait, ce qui peut nous faire bondir, hein, de manière rétrospective, c'est de se dire que il invite tout le monde à venir voir la grotte. Et ses principaux opposants, en particulier Sautuela et Villanova, les invitent. Et le principal opposant, qui est Émile Cartaillac, à ce moment-là, parce qu'il est très actif dans ces congrès, n'ira pas à Altamira.
Très tard.
Il ira très tard avec l'abbé Breuil, mais il n'ira pas. Et il a un avis définitif, au moins
sans y être allé.
Au moins en se fondant sur le rapport d'Arlet. Et donc, ça prend une tournure qui, d'un point de vue humain, est assez difficile, parce que on leur interdit de parler, ils ne peuvent pas prendre la parole dans les congrès. Il y a une pression, y compris physique, hein, qui est exercée sur eux. C'est-à-dire que le nombre l'emporte sur le contenu, c'est-à-dire que de l'intervention. Donc, c'est vraiment très difficile. Et ce qui explique également le fait que, finalement, on ne va plus trop parler d'Altamira dans les années qui vont suivre.
On oublie, empêché qu'on en parle, en fait.
On l'oublie pas comme site archéologique, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a du paléolithique dans le dépôt, mais c'est terminé d'un point de vue art pariétal, bien évidemment, hein, puisque la question ne se pose même pas. Donc je pense que humainement, ça a dû être très dur. Alors, il y a des éléments aussi qui se superposent à tout ça, c'est-à-dire que Villanova, le paléontologue qui soutient Sautuela, a pris ouvertement position contre la reconnaissance de ce qu'on appelle l'homme tertiaire, c'est-à-dire un homme dont on n'a aucune preuve d'existence, qui a été créé par Gabriel de Mortillet en France, parce qu'il en avait besoin pour sa propre chronologie. Il a créé un homme qui est, pour simplifier, on va dire le chaînon manquant entre l'animal et nous. Et Villanova considère qu'il n'y a aucune preuve paléontologique, archéologique de l'existence de cet homme. Et c'est vrai que Mortillet, lui, il a juste 3-4 galets éventuellement utilisés, éventuellement aménagés pour justifier l'existence de cet homme. Il en a besoin dans sa vision évolutionniste, mais pas darwinienne ni lamarckienne d'ailleurs, sa vision d'une île linéaire, d'une marche vers le progrès. Et Villanova s'est opposé à lui, donc il est également suspect à cet égard. Et puis Villanova, il est plutôt proche des milieux, on va dire, je vais simplifier à nouveau, des milieux plutôt conservateurs et cléricaux espagnols. Et donc, c'est aussi pour une bonne partie de nos préhistoriens français un sérieux handicap. C'est-à-dire qu'ils considèrent que cet apport de la métaphysique à leur vie personnelle doit obligatoirement rejaillir sur leur conception scientifique, et donc leurs conceptions scientifiques sont suspectes.
Et j'aimerais qu'on puisse venir maintenant finalement à la lente reconnaissance en fait de la grotte d'Altamira. Déjà, peut-être ce qu'il faut mentionner, Liliane Potin, c'est qu'il y a d'autres grottes ornées qui vont être découvertes dans les années 1890 et qui sont importantes.
Tout à fait. Alors, en fait, là, le refoulement de la découverte d'Altamira, autour après 1880, va quand même, disons, avoir des effets étranges, c'est-à-dire François Dalot, par exemple, à Père non Père, en Gironde, va par exemple hésiter longtemps. Il fait découvre des gravures, y compris recouvertes par des dans les années 1880, enfin la fin des années 1880, et il va vraiment falloir que en 1895, un préhistorien Mille Rivières en Dordogne à La Motte découvre une galerie totalement scellée. On en revient à cette question fondamentale, totalement scellée et de manière indubitable, pour que là se soit conjuré, en quelque sorte, ce qui était le spectre d'Altamira, c'est-à-dire la suspicion du faux ou du récent. En sachant qu'on a bien compris que fondamentalement, on ne croit que ce qu'on veut croire, ou plutôt au point de ne pas vouloir le voir. Hein, donc Émile Cartaillac, c'est l'anti Saint Thomas, si on peut dire, puisqu'il ne veut même pas aller voir, il préfère. Donc, il va de soi que si on ne veut pas, Arnaud Hurel l'a très justement dit il y a un instant, y croire pendant presque 20 ans, c'est parce que fondamentalement résiste aussi cette idée que les préhistoriques seraient non seulement des vrais artistes, mais aurait un imaginaire, voire une spiritualité, et cela rejoint la controverse aussi contemporaine de les fossiles entiers qu'on trouve humains sont-ils des sépultures volontaires ou au contraire involontaires, enfin des voilà. C'est tout ça est en jeu, et effectivement quelque part en 1895, Émile Rivière va à toute autre échelle se retrouver un peu dans la même situation encore quelques années que Sao Tola en 1879. Pour plein de raisons, bien qu'il ait depuis Menton et la découverte de l'homme de Menton, une sépulture dans les années 1870 qui avait été remis en cause, fouillé beaucoup plus que Sao Tola. Hein,
on peut même dire davantage reconnu en tant que.
Davantage reconnu, mais quand même d'une génération, il est né en 1835, qui est encore celle de vraiment des premiers amateurs. Il est médecin. En effet, d'une certaine façon, Cartaillac ne va pas venir non plus en 1895. Et quand il va venir, il va être sceptique en 1897-98. Et Dalot, même si Dalot finalement, à Père non Père, toujours dans l'Aquitaine, va dans ces mêmes années dire, après tout, moi aussi j'en ai, moi aussi ces gravures, elles sont, ces gravures, pas des peintures, sont recouvertes par des couches archéologiques, donc là ça commence à devenir vraiment évident.
Marsoulas, juste ensuite,
voilà, et alors même Marsoulas, pourtant découverte par un ami d'Émile Cartaillac, ça prend pas, et on arrive en 1900, et au fond ça fait 22 ans que, malgré les découvertes qui commencent à s'accumuler, ça ne prend pas.
Il y a un point qui est très important, Arnaud Hurel, c'est justement la question des pratiques funéraires. Finalement, est-ce que c'est ça aussi qui va faire changer le fait qu'il y ait une forme justement de symbolisme, si vous voulez réagir à ce que disait Yann juste avant?
Oui, si vous me permettez, je crois qu'il y a un effet de génération. Mmh. Il y a un effet de génération, c'est-à-dire qu'il y a une génération qui fait émerger la préhistoire, il y a une génération qui répond à la première question, et parmi ceux qui ont la main sur tout le dispositif, il y a Gabriel de Mortillier. Comme l'a souligné Yann Potin tout à l'heure, il est à Saint-Germain-en-Laye, il présente les collections de préhistoire, et la façon dont il les présente, c'est selon sa propre chronologie, selon ses propres déterminations. Donc c'est quand même là-bas où vont les préhistoriens de province pour apprendre la préhistoire. Et donc il rapporte tout ça. Donc il a un poids. Il est celui qui édite. Il crée la principale revue, les matériaux qu'il va vendre ensuite à Émile Cartaillac. Donc il y a un poids considérable de cet homme. Et puis il fait partie d'un groupe qui est très actif au sein de la Société d'anthropologie de Paris. Donc, et puis qui a des liens avec la faculté de médecine. Donc c'est des gens qui ont des liens avec l'université, alors que cette communauté de préhistoriens est en marge de l'université. Donc lui, il connaît du monde. Il est à Paris, il connaît du monde, pour être un petit peu ironique dans mon propos. Mais et il meurt en 1898. Et cette mort ne libère pas tout le monde d'un seul coup, mais va libérer un peu Cartaillac. Parce que Cartaillac était quand même sous domination de Gabriel de Mortillier. C'est lui qui... Il est un de ceux qui lui ont mis le pied à l'étrier, qui lui ont fait confiance au début. Même si Cartaillac s'est rendu compte assez vite qu'il était manipulé par Gabriel de Mortillier, pour des tas de raisons, mais il était un peu manipulé par lui. Mais il se libère.
Et puis Cartier, c'est pas non plus un homme de concept. Donc c'est un travailleur acharné, c'est quelqu'un qui a une véritable érudition, qui est capable de croiser des données issues de champs disciplinaires très variés. Il construit une pensée.
Mais il n'a pas une vision globale qui change par rapport à l'atmosphère.
Et Mortillet, lui, il avait en fait un mode d'emploi de la préhistoire et tout était réglé. On avait tout, on avait les noms, on avait les chronologies, on avait tout ça. Il avait le pouvoir,
Lui, la préhistoire était très clairement une science militante visant à démontrer le matérialisme. On a parlé tout à l'heure de l'homme tertiaire, le matérialisme primitif, c'est-à-dire le fait que l'homme vient de la matière et pas de l'esprit. Voilà.
Et donc sur la question des sépultures, Cartaillac et Mortillet étaient du même avis, ont été du même avis pendant très longtemps. Et ils se sont éloignés le jour où Émile Cartaillac lui-même a commencé à douter des certitudes sur le sujet. C'est-à-dire, disant, mais il y a quand même des cas, si on se fie entre autres à l'ethnographie, des cas où on peut considérer que, du temps de la préhistoire, il y a eu un soin qui a été apporté aux morts. Et que ce soin apporté aux morts, là aussi on rejoint les pratiques du 19e siècle. Hein. On cherche une fosse avec un individu, puisque voilà, on est en période de transition funéraire, on a des grands cimetières qui gagne la ville gagne les grands cimetières,
la vision de la mort
et les pratiques de la pompe funèbre changent. Et donc, on calque un petit peu tout ça sur la préhistoire, comme d'habitude. Et finalement, Cartaillac arrive à avoir un certain nombre de certitudes. Et là, il va s'opposer à Gabriel de Mortillet, qui va lancer une cabale contre lui au niveau européen, d'ailleurs.
France Culture. Ils ont changé le monde. Les découvertes scientifiques. Alexandra Delbo.
L'inégalité de conservation des teintes, l'absence sur beaucoup de parties de tout vernis stalagmitique, la perfection des œuvres, leur importance, les procédés d'exécution, l'originalité des silhouettes, l'absence de toute trace de noir de fumée, enfin et surtout cette obscurité profonde contre laquelle il semblait que seuls pouvaient lutter des luminaires modernes, tout est réuni en Dordogne pour justifier les monuments d'Altamira et en fixer la date. Il faut s'incliner devant la réalité d'un fait. Et je dois, pour ce qui me concerne, faire amende honorable à monsieur de Sautola. Il n'est pas, jusqu'à la vue d'une belle planche, dont nous donnons ici un fac-similé, qui ne soit une révélation du style préhistorique que j'ai eu le tort de méconnaître. Et quant à ces formes étranges qui étonnaient à juste titre monsieur Harley et dont il nous rapportait des figures précises, nous reproduisons une d'elles avec le regret de ne pouvoir la donner en couleur, elles continuent à nous étonner, mais qu'importe. Nous sommes aujourd'hui plus habitués aux surprises dans le domaine de notre archéologie préhistorique. Notre jeunesse croyait tout savoir, mais les découvertes de messieurs Dallot, Rivière, Capitan et Breuil, et surtout les admirables fouilles et les collections artistiques de monsieur Piette, nous montrent que notre science, comme les autres, écrit une histoire qui ne sera jamais terminée, mais dont l'intérêt augmente sans cesse.
Un extrait d'une lettre devenue célèbre, mea culpa d'un sceptique en 1902. C'est Émile Cartaillac qui écrit justement cette lettre. C'était une lecture de Loïc Dutoit, justement. C'est intéressant de voir quand même, avant de pouvoir questionner les arguments en fait utilisés par Cartaillac, c'est quand même assez rare qu'un scientifique reconnaisse ses erreurs publiquement, en fait, dans un domaine, dans celui-ci ou dans un autre, Yann Potin.
Ça faudrait vérifier. En effet, par contre, là, très clairement, Émile Cartaillac, qui à ce moment-là,
quand il y a un acte en tout cas,
une soixantaine d'années, dans un tournant de sa carrière, et effectivement, si j'ose dire, les générations s'éclaircissent, il devient un petit peu le doyen de la discipline. Donc, il a aussi un bâton de maréchal à prendre.
Il a un rôle, en fait, qui est laissé par...
Et de ce fait, en plus, il est localisé à Toulouse, c'est très important, parce que toutes ces découvertes commencent à se multiplier quand même dans le sud de la France, donc la préhistoire commence un petit peu à se régionaliser aussi beaucoup, à cause des découvertes. Bref, ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'une autre génération arrive sur le devant de la scène, le successeur de Mortillet à l'école d'anthropologie, Louis Capitan, qui lui est un médecin aussi, qui a de l'argent, et qui va d'ailleurs être plus tard au Collège de France, parce qu'il est aussi américaniste, bref, va recruter des beaucoup plus jeunes, dont un certain séminariste Henri Breuil, pour, en quelque sorte, travailler avec lui, mais surtout aussi Denis Péroni, en Dordogne, qui va être un peu son... son régisseur en quelque sorte de fouille. Et en 1901, ce trio découvre coup sur coup à 10 jours d'intervalle deux grottes rapprochées au sens où elles sont dans deux vallons cousins à de quelques centaines de mètres. L'une avec des gravures, l'autre avec des peintures. Tout le kit en septembre 1901. Et là, je l'évoque parce qu'en fait, c'est ça la véritable cause du miracle pas d'un sceptique. C'est une série de découvertes indubitables. Donc là, Cartac est devant une accumulation de preuves. Il a certainement déjà, depuis Marsoulas, fait son chemin vers... Mais de là à publier un article entier dédié à son, si j'ose dire, à sa renonciation et à le fait qu'il est, il essaie de renier ses erreurs. Ça, on en a quasiment la preuve chronologique. Ça date du début de l'année 1902 dans ses lettres. Or, l'automne 1901 est une véritable course parce que Rivière, lui aussi, qui est toujours là, se rend compte qu'il est en train de se faire doubler par un nouveau trio et que lui, ça fait 6 ans qu'il... Alors, on va pas rentrer dans les détails, mais au fond, se joue là, pour le coup, puisqu'on parle de découverte, on a parlé d'une découverte refoulée, là, c'est l'autre schéma des découvertes, c'est-à-dire la concurrence, celle qu'on va retrouver dans plein d'autres domaines de la recherche médicale, en passant par, évidemment, la recherche paléontologique des fossiles dans les années 70, c'est-à-dire véritablement un steeplechase. Qui va, en fait, c'est quelques mois... Et un des enjeux de cette concurrence, c'est justement qui va récupérer Altamira.
Justement, un petit mot peut-être sur le rôle de l'abbé Breuil sur le changement de vision finalement de Cartaillac. L'abbé Breuil est assez jeune en fait au moment où on découvre, très jeune au moment où même de la découverte d'Altamira. Donc en fait, il commence à s'intéresser justement à la préhistoire autour des années 1900, si je me trompe pas. Comment est-ce qu'il rentre en contact avec Cartaillac? Et puis, je crois que justement sa jeunesse, sa vision très différente par rapport justement au fait qu'il soit lié avec la religion, va pousser finalement à revoir sa manière de voir.
Si vous me permettez de revenir juste sur le mea culpa d'un sceptique, je crois qu'en complément de ce que Yann Potins vient de nous expliquer, je crois qu'il y a un élément qui est important, qui va rejoindre la question que vous posiez tout à l'heure sur les sépultures, qui est l'apport de l'ethnographie. Lorsque Émile Cartaillac va s'intéresser seul, sans influence à la question des sépultures, il va aller chercher du côté de l'ethnographie. Il ne faut pas oublier qu'il occupe une place stratégique puisqu'il est directeur d'une revue. Et en tant que directeur d'une revue, il est au carrefour de... On lui envoie énormément d'articles, il reçoit énormément de livres, énormément de revues, il lit tout, il a une bibliothèque assez considérable, des dizaines de milliers d'ouvrages. Et donc, il a une connaissance qui est très approfondie des travaux dans le domaine de l'ethnographie. Donc ça va l'aider pour la question des sépultures et ça va contribuer à rendre possible la reconnaissance de l'art pariétal. C'est-à-dire que il est prêt à reconnaître d'autres types de pratiques symboliques. Quant à Breuil, lui, il est totalement étranger à tout cela. Il est né en Normandie, un peu par hasard, en fait, à Mortain, du fait des affectations de son père. Mais il est de l'Oise. Il n'est pas du tout de cette région-là. Il est dans un milieu où il y a un cousin qui s'intéresse à la préhistoire, qui a un rôle majeur dans la vallée de la Somme, puis ensuite sur la question des mégalithes en Bretagne. Mais voilà, il n'est pas vraiment là-dedans. C'est par ce cousin qui va découvrir un petit peu tout cela, mais il arrive au séminaire, il rentre au séminaire, et au séminaire, il va découvrir les sciences naturelles, il va découvrir la théorie de l'évolution. Il va découvrir ça, c'est son professeur, l'abbé Jean Guibert, qui va le former dans ces deux domaines, et qui va lui donner à lire, non pas des ouvrages qui auraient eu l'imprimatur, un inobsta quelconque, mais il va lui donner à lire Gabriel de Mortillet. Il va lui mettre entre les mains une lecture de bouffeur de curé, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire le camp le plus matérialiste, mais celui qui, sur ces questions de préhistoire, est le plus au fait du sujet. Et donc, il va découvrir la préhistoire dans ces livres-là. Il va découvrir la préhistoire dans la revue Les Matériaux, à laquelle l'abbé Guibert est abonné. Et donc, en fait, il va découvrir Émortillier et Cartaillac, lorsque Cartaillac en devient le directeur. C'est comme ça qu'il va se former. Il va se former à leur contact livresque, mais il va se former à leur contact. Et c'est en 1900
lors d'un congrès qui se tient à Paris en même temps qu'une exposition universelle, que Carteric est présent évidemment parce que c'est l'un des organisateurs, je ne sais plus quel est son titre exact au sein de l'administration de ce congrès, mais Breuil s'inscrit comme un auditeur quelconque et il vient voir en fait tous ceux qu'il avait lus et je crois qu'il a une communication sur l'âge du bronze ou quelque chose comme ça à ce moment-là et il va voir Carteric, ils vont se rencontrer un peu par hasard, mais c'est pas à ce moment-là que véritablement les contacts les plus forts vont s'établir, mais c'est son premier contact avec Carteric.
On va être amené à discuter justement de plus en plus. Est-ce que du coup, on arrive à la toute fin de cette émission, est-ce que finalement, cette lettre, ce mea culpa, démarre une forme de reconnaissance internationale de la grotte ? Est-ce qu'on peut le dater à ce moment-là, en 1902 ?
Alors je dirais que c'est pas tellement le mea culpa que justement le voyage. Alors là, initiatique pour Breuil, qui a quand même que 25 ans, et initiatique aussi pour Émile Carteric, qui lui, par contre, va bientôt avoir 60 ans à ce moment-là. Alors, Breuil, d'abord, il va y trouver une méthode de calque qui va faire le succès de sa carrière par la suite. Bon. Carteric va finalement, d'une certaine façon, mettre à exécution son mea culpa et effacer la non-reconnaissance que lui-même, 25 ans, avait initié. Et ils vont lancer surtout une énorme publication qui va mettre 6 ans à paraître, hein, puisqu'elle va sortir en 1908, même mais datée de 1906, bon, qui va être la première monographie sur Altamira, financée par le prince de Monaco. Entre-temps, même Carteric aura le projet de publier, du coup, il passe d'un excès à l'autre, toutes les grottes ornées, toutes les grottes existantes, ce qui n'arrivera pas, bien sûr. Donc oui, sans conteste, septembre 1902 marque, et on peut dire les années qui suivent par les publications, puisque alors là, du coup, le steeplechase, la concurrence part dans tous les sens, et puis surtout d'autres découvertes. Dans la suite, Niaud, Gargas, toujours pour rester dans les Pyrénées, le Portel, etc., etc., et d'autres petites grottes en Dordogne. Mais en effet, on peut dire que quand même 1902, c'est un vrai, au point que d'ailleurs, Breuil compare, comme la création d'Adam, Altamira, à la chapelle Sixtine de la Préhistoire. Ce qui va être détrôné ensuite, quand Breuil lui-même, en 1940, va, non pas découvrir Lascaux, mais disons, achever ce processus en découvrant ou participant à la découverte d'une grotte qui, elle, sera d'emblée indubitable, en septembre 1940.
Arnaud Hurel, dernière petite question, très, très, très rapidement. Est-ce qu'il va y avoir un scepticisme qui va revenir finalement sans cesse ? Est-ce que, là, on a reconnu donc du coup la grotte d'Altamira, est-ce qu'il y aura à nouveau ce questionnement très fort, en fait, justement des preuves potentielles de grottes ou même d'autres sujets en préhistoire ?
On l'a toujours. En fait, le doute existe en permanence. Et donc, la principale question, c'est lorsque, en fait, si on parle juste de l'art pariétal, c'est finalement une grotte, si on la connaît déjà, si c'était un refuge pendant les guerres de religion, si pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a été aussi un refuge, et ainsi de suite. On en vient à douter lorsque, d'un seul coup, on découvre de l'art pariétal à l'intérieur. On se dit, bon, ce sont des graffitis récents, où on aurait dû voir tout cela. Altamira va produire aussi avoir un autre effet, c'est que ça va entraîner la professionnalisation de la préhistoire. Et le premier professionnel, c'est Breuil, qui va, en fait, profiter de l'argent du prince Albert Ier de Monaco et de sa vision en faveur de la professionnalisation de la préhistoire. Il va profiter de tout cela et il va être à temps plein et va être un des principaux acteurs qui vont permettre justement la reconnaissance pleine et entière de l'art pariétal.
Merci à vous de Arnaud Hurel, Yann Potin d'être venu nous raconter l'histoire de la découverte de l'art pariétal. Merci également à Loïc Dutoit pour la préparation de cette émission, à Sam Bakias pour la réalisation. Et aujourd'hui, à la technique, c'était Noé Chabanne. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres découvertes scientifiques qui ont changé le monde sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. On se quitte en musique avec Pascal Olivier. Prenez garde à la peinture.
Prenez garde à la peinture. Par une nuit tendre du mois de septembre, j'avais fait un nu magnifique, un nu érotique, un peu biscornu. J'ai brossé ma toile à la belle étoile, c'était si bien fait, qu'en haut de la dune, je crois que la lune s'y reconnaissait. Je suis un pauvre artiste, les livres sont tristes, je les ai tous lus. Le ciel est maussade, moi dans la panade, rien ne va plus. Mais par ma lucarne, sacrée petite carne, quand je t'aperçus, faisant ta toilette, je me dis dans ma tête, tu ressembles à mon nu. Prenez garde à la peinture, c'est pas toujours rigolo. Tu ne les verras plus, mes toiles ni mon nu, je les ai vendues. Autant pour les crosses, j'ai vendu mes brosses au premier venu. Pour être un peu riche, te chauffer les miches, c'est pas réussi. Quant à la morale, permet que je râle, c'est raté aussi. Un chat noir qui miaule la nuit dans ma piole, ça sent le sapin. Je ne suis pas riche, je n'ai plus de miche dans ma huche à pain. Ma gloire éphémère a navré ma mère, chassé mes copains. Et toi dans la rue, ma pauvre ingénue, tu fais le tapin. Prenez garde à la peinture, c'est un métier bien ingrat.